Il est 8h15 sur France Culture et c'est les matins du samedi, Caroline Brouet.
Merci Camille Magnard, on vous retrouve à 9h. Vous avez consacré une grosse partie et pour cause de votre journal aux événements en Espagne. La Catalogne, l'Espagne, l'Europe plus largement entrent en crise historique. C'est le titre du Figaro, c'est aussi le titre des journaux. Mélanie Chalandon y reviendra dans sa revue de presse, une revue de presse spéciale. Mais à peine le Parlement catalan avait-il voté l'indépendance hier que Madrid répliquait en suspendant l'autonomie de la région, laissant redouter une grave période d'instabilité, d'où notre envie, notre besoin de comprendre un peu mieux ce qui se passe, un événement d'une importance suffisante pour que nous bousculions nos programmes au matin du samedi de France Culture. Nous aurons notre invité Laurent Cohen, neurologue, pour parler hôpital et pour parler cerveau après la revue de presse de 8h30 par Mélanie Chalandon. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Raphaël Jorba qui est depuis Barcelone. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous étiez jusqu'à il y a très peu de temps le directeur adjoint du quotidien La Vanguardia. Vous êtes aussi un ancien correspondant à Paris de ce journal. Vous êtes à Barcelone donc. Les unes de nos journaux sont faites de photographies qui nous montrent des places de Barcelone hier remplies, une foule en liesse avec des Catalans défilant avec les drapeaux de la Catalogne. Quelle est l'ambiance à Barcelone depuis hier ?
Oui, il y avait des foules dans certaines places, surtout à la place de la Generalitat et de la mairie, mais aussi il y a la vie qui continue. Je vous pose un exemple. Gironne, qui est l'un des fiefs du nationalisme, de l'indépendantisme, demain va jouer un match de foot parce que Gironne a monté la première division avec le Real Madrid et tout le monde veut le jouer. C'est-à-dire, c'est aussi un peu la contradiction de la vie quotidienne. D'un côté, oui, il y a des gens qui fêtent l'indépendance dans la rue, mais la vie continue, il y a des gens qui continuent à travailler, qui continuent à aller au foot. C'est-à-dire, c'est un peu, si vous voulez, la grande fracture de cette indépendance n'est pas une fracture entre la Catalogne et l'Espagne, c'est une fracture au sein même de la Catalogne. L'indépendance a été votée par un référendum qui remplissait toutes les conditions par 38% de la population. L'ancien Parlement qui vient d'être dissu avait une majorité de sièges indépendantistes, mais des voix, il n'y avait que 48%. Alors, on est dans un pays en égalité avec soi-même et la fracture intérieure, c'est les qu'on craint le plus en ce moment.
La vie continue, dites-vous, les matchs de foot ont lieu, Raphaël Jorba, mais malgré tout, ce que vous nous dites et ce qu'on voit dans les journaux, c'est dans la rue des indépendantistes manifestants et donc exprimant aussi leur contentement, leur satisfaction. Qu'en est-il des anti-indépendantistes? Est-ce que vous les avez vus dans la rue? Est-ce qu'ils se sont exprimés d'une façon ou d'une autre?
Oui, ils se sont exprimés, même violemment, des groupes d'extrême droite. Ils ont attaqué, par exemple, le siège de Catalunya Radio, ils ont cassé les vitres. Ça, c'est les extrémistes qui se sont exprimés, mais pour dimanche, il y a prévu une grande concentration des forces qui dites unionistes au centre de Barcelone. Vous voyez, pour la rue sert à exprimer un mécontentement ou la joie. Les mécontentements des uns et la joie des autres. Mais la rue ne sert pas à résoudre les problèmes. Les problèmes, on les résout par la voie du dialogue et de la politique. Et c'est le déficit de politique, avec une surenchère émotionnelle entre deux nationalismes, le nationalisme espagnol et le nationalisme catalan, qui nous a menés où nous sommes.
Comment analysez-vous, Raphaël Jorba, ce qui s'est passé hier? Est-ce que c'est un coup de force pour vous et de quel côté?
Oui, hier, il y a eu deux coups de force. D'un côté, le Parlement, qu'avec la moitié des députés et les autres qui ont abandonné l'hémicycle, a voté pour l'indépendance de la Catalogne, et le gouvernement espagnol qui a suspendu l'autonomie et qui a déchu son président et ses conseillers, ses ministres. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que les mesures qu'on attendait du gouvernement espagnol ont été dures, mais rapides. C'est-à-dire, dans 55 jours, concrètement le 21 décembre, sont convoquées des élections régionales, des élections autonomiques, pour le retour à la normalité, si j'ose dire. Alors, c'est une intervention dure, mais limitée dans le temps.
Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir?
Je suis inquiet surtout pour deux choses. D'un côté, la paix civile, la convivance au sein même de la Catalogne avec les Catalans. Là, je regarde la cour de mon habitation, au centre même de la Barcelone. Il y avait, jusqu'à quelques jours, 5 ou 6 drapeaux catalans avec l'étoile, c'est les drapeaux indépendantistes. Mais depuis une semaine, je vois 1, 2, 3 drapeaux espagnols aussi sur les balcons. Alors, la division est au sein même de la société catalane. Je vous pose un exemple. C'est les familles mêmes qui sont divisées. Il y a un exemple à la France que vous trouverez sur Twitter. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a tenu des propos contraires à l'indépendance de la Catalogne. Sa sœur, Giovanna Valls, qui habite Barcelone, a entré en dialogue avec Twitter, avec son frère, en défendant cette indépendance et en défendant la position de la position des indépendantistes. Là, c'est un exemple pour vous dire que l'indépendance ne fracture pas seulement la Catalogne et l'Espagne, elle fracture la Catalogne au sein d'elle-même, elle fracture les familles, elle fracture la communauté.
Et elle franchit même les frontières. Merci Raphaël Jorba d'avoir témoigné au micro. Vous étiez en direct depuis Barcelone et nous accueillons maintenant deux autres invités. Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et puis Jean-François Daguzan, directeur adjoint à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Jean-François Daguzan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé en 2015 un livre intitulé « La fin de l'État-nation, point d'interrogation » à ce moment-là encore. « De Barcelone à Bagdad » aux éditions du CNRS. Comment avez-vous réagi tous les deux hier et comment réagissez-vous à ce que vient de dire Raphaël Jorba quant à la déchirure au sein même de la région catalane, au sein de la région catalane, puis au sein de l'Espagne, puis qui franchit les frontières. Benoît Pellistrandi.
Et il me semble que ce qu'a dit Raphaël Jorba est effectivement tout à fait caractéristique de ce qui se passe réellement en Catalogne. Et depuis maintenant un mois que les médias français observent de très près l'approfondissement de cette crise, on a enfin compris que la revendication d'indépendance n'était portée que par des activistes très organisés, très militants, et qui représentent une partie importante, voire même considérable de la société catalane, mais que la stratégie qui a été suivie a été une stratégie de confrontation et d'affrontement. La bonne nouvelle, c'est que cette stratégie qui a culminé hier avec cette déclaration d'indépendance, mais qui aura duré en tout et pour tout 3 heures, puisque le vote du Parlement a lieu vers 17h et à 20h15, ce gouvernement est destitué. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des élections le 21 décembre et donc on va pouvoir rebattre les cartes pour que les Catalans, qui désormais sont informés, vont pouvoir comprendre à la fois quels sont les projets indépendantistes, où ça les mènerait, et d'un autre côté, ceux qui sont opposés à l'indépendance se sont mobilisés de façon massive le 8 octobre dernier à Barcelone au cours d'une grande manifestation et vont le refaire encore dimanche prochain, c'est-à-dire demain. Ce qui est important de comprendre, c'est que par-delà la crise politique, de toute façon, il va y avoir un énorme travail de reconstruction, comme le rappelait Raphaël Jorba, un travail pas simplement institutionnel, mais un travail affectif, sentimental, pour recoudre la Catalogne à l'intérieur d'elle-même.
Benoît Pellistrandi, là c'est à l'historien que vous êtes que je m'adresse. On parle d'une crise historique, on a pu lire ici ou là que c'était un événement inédit, alors pas seulement dans son ampleur, dans son importance, mais aussi précisément dans l'histoire. Qu'en dites-vous ?
Sans aucun doute, moi j'ai pris l'habitude de dire que c'était la crise la plus grave que l'Espagne traversait depuis la guerre civile. C'est donc dire l'intensité de ces événements qui ont vraiment mis, j'allais dire, le pacte constitutionnel à l'épreuve, j'allais dire la démocratie espagnole à l'épreuve. Si tout ça se termine, j'allais dire, de manière politique, par les urnes, par le dialogue, par l'inventivité institutionnelle, alors la démocratie espagnole aura été sauvée et elle aura aussi démontré sa force. Si par malheur les choses évoluaient mal, et il y a quand même des forces indépendantistes radicales, là pour le coup minoritaires, mais qui voudraient que ça tourne mal, alors on aurait de quoi craindre un scénario, j'allais dire à la Yougoslave avec tous les guillemets nécessaires, c'est-à-dire un enfoncement dans une crise qui ne serait plus simplement politique, mais qui serait civique et sociale.
Jean-François Daguzan, le scénario à la Yougoslave
Oui,
vous y croyez aussi possible ?
Il faut le prendre très très au sérieux.
Le problème est, comme j'ai pu le dire ailleurs, que les logiques à la fois des indépendantistes et du pouvoir central espagnol, même si le pouvoir central a la légitimité constitutionnelle avec lui, c'est celle de deux TGV fonçant à toute allure sur une seule et même voie en sens inverse.
Ah, vous dites comme la maire de Barcelone, Ada Colau, qui dit que c'est une collision entre deux trains. L'image
oui,
est
oui,
effectivement
oui,
la même.
Et cette collision-là, elle est possible. Et il va falloir, je dirais, toute la force des non-violents, de ceux qui défendent le processus démocratique des deux côtés, et une grande intelligence tactique de la part du gouvernement central pour éviter la catastrophe. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de violence significative, contrairement à ce qui a été vendu par les indépendantistes lors des élections, de l'élection qui les a amenés à la proclamation de l'indépendance. Il n'y a pas eu une véritable confrontation armée, entre guillemets, avec le gouvernement central. Si des actes de violence venaient à se produire entraînant des victimes, nous ne savons pas, comme vient de le dire le professeur Pellistrandri, où les événements pourraient nous conduire, et ils pourraient très très mal tourner. Et effectivement, imaginez la situation de guerre civile larvée au sein même de l'Europe occidentale en 2017 est quand même un scénario absolument terrifiant. Donc c'est une situation très très difficile. Là, la question des élections du 21 peuvent-elles régler ce problème-là en, par exemple, faisant apparaître que la majorité catalane n'est pas la majorité des indépendantistes ? Peut-être, mais ça ne va pas freiner le noyau dur radical, celui qui a conduit justement à la déclaration unilatérale d'indépendance, et va au contraire les convaincre que tout est fait pour briser l'âme catalane, son indépendance, et que donc c'est par les armes que le problème doit être résolu. C'est ça le véritable danger aujourd'hui, et il faut en être totalement conscient.
Jean-François Daguzan, vous analysez notamment dans votre dernier ouvrage sur la crise de l'État-nation, la multiplication précisément des revendications d'autonomie et de séparatisme, que ce soit en Écosse, très très récemment encore en Italie, même si là il s'agit d'autonomie et pas d'indépendance, au Kurdistan pour voir plus loin, mais si on reste en Europe, c'est le signe de quoi pour vous ce qui se passe là, de façon plus générale ?
Bon, c'est un mouvement assez général que l'on peut trouver dans le monde entier, qui est qu'à un moment donné, des États structurés sur le modèle de l'État-nation français de la Révolution française, qui est le modèle intégral, le chef-d'œuvre, comme disait Raymond Aron, est finalement remis en cause alors qu'on le croyait définitivement pérenne, et que ces structures-là sont à la fois secouées par le bas, c'est-à-dire les autonomies, les indépendantismes d'une part, et les superstructures, l'Union européenne, pour ne citer que la nôtre, on va dire, d'autre part. Et dans le discours des indépendantistes italiens, basques ou catalans, ou bien même les britanniques, cette idée de se passer de la structure intermédiaire qui était l'État traditionnel a toujours été dans le discours dès les années 80, en disant finalement pourquoi avons-nous besoin de cette étape inutile, passons immédiatement au fédéralisme européen et tout le monde pourra s'exprimer en tant que nation. Ça, c'est un mouvement très fort, et auquel il faut rajouter les ruptures dans des États qui ont été créés entre le Congrès de Berlin et les accords Saint-Picot, c'est-à-dire entre la colonisation de l'Afrique et la fin de la Première Guerre mondiale, et où finalement on a agrégé des groupes ou des morceaux d'État qui ne s'étaient jamais fréquentés, on va dire, dans l'histoire. Donc à partir de là, ces États constitués de briques et de brocs ont tenu tant qu'ils ont pu, et puis des gens considérant que leur identité était mise à mal, était mal respectée, revendiquent une véritable, un véritable État. C'est le cas des Touaregs du Mali, par exemple, comme le, celui des Kurdes. Voilà, on est dans un mouvement, là.
Merci beaucoup, Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La fin de l'État-nation, point d'interrogation de Barcelone à Bagdad. Merci à vous, Benoît Pellistrandi, historien spécialiste de l'Espagne contemporaine. Benoît Pellistrandi, vous serez, peut-être d'ailleurs que je vous l'apprends, puisque ça a été décidé juste hier soir, vous serez à nouveau dans deux heures, une heure et demie, sur l'antenne de France Culture, dans Concordance des Temps de Jean-Noël Jeanneney, puisque la chaîne a décidé de rediffuser une émission avec vous qui date du 5 octobre 2013 et qui portait précisément sur la Catalogne. Un espoir peut-être à venir du côté de l'Europe, puisque au moins les 28 sont d'accord pour soutenir aujourd'hui l'Espagne. Que peut l'Europe ? C'est peut-être une question qu'on va aborder dans un instant dans la revue de presse.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Une revue de presse, Mélanie Chalandon, qui est ad hoc, comme on dit, avec trois principaux titres de la presse écrite ce matin, Le Parisien, Le Figaro, Libération, qui oscille entre incrédulité et pessimisme.
Oui, effectivement, Caroline. La passion l'a emporté sur la raison, s'alarme ce matin Alexandra Schwarzbrod, qui signe l'édito de Libération. Alors que le dirigeant catalan semblait zigzaguer ces trois dernières semaines, on pensait que la raison, notamment la raison économique, l'aurait emporté, écrit-elle. Mais non, dès lors, on ne voit pas comment le pire pourrait être évité. Et dans ces pages, le journal revient sur le profond conflit de légitimité qui oppose les deux parties. C'est souveraineté de la loi contre souveraineté du peuple. Et de ce point de vue, Madrid et Barcelone sont à armes égales. Mais cela rend aussi le dialogue impossible. Car d'un côté, Barcelone n'entend pas renoncer à ce qui lui semble au-dessus des lois espagnoles. Tandis que pour le pouvoir central, hors de la légalité, point de salut, la loi et encore la loi. C'est un voyage en absurdie, abonde de son côté le Figaro, qui ne comprend pas qu'une frange radicale puisse prendre en otage 7 millions d'Européens. Mais à quoi rêvent ces ultras, se demande Arnaud de Lagrange dans son édito. À une relation spéciale avec la Corée du Nord, se demande-t-il, à un traité de libre-échange avec le Venezuela ? Pour le Parisien, c'est avant tout un coup dur pour l'Europe. 16 mois après le Brexit, c'est l'Union européenne tout entière qui est de nouveau remise en cause par la crise catalane. Dans son édito, Pierre de Chausses dénonce non seulement l'aveuglement, mais surtout l'incapacité de l'Union à se positionner dans cette crise. Et le journal rappelle que depuis hier soir, on l'a entendu nous-mêmes dans le journal, ce sont des soutiens à Madrid qui s'expriment dans toute l'Europe, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et bien sûr le Conseil de l'Union européenne. Alors pour le Figaro, au contraire, certes, la crise catalane est une affaire européenne, mais non, ce n'est pas une raison pour que l'Europe s'en mêle. Les Européens préfèrent laisser les séparatistes se prendre dans le piège de la non-reconnaissance, analyse le journal. La meilleure carte qui s'offre aujourd'hui à Mariano Rajoy, c'est de laisser le gouvernement de Barcelone se ridiculiser dans le purgatoire de la non-reconnaissance, analyse Jean-Claude Piris, ancien patron des services juridiques européens, interviewé par le journal. Alors hier soir, pourtant, le président du Conseil de l'Union, Donald Tusk tentait de calmer le jeu. Il faut choisir l'argument de la force plutôt que la force de l'argument, disait-il. La phrase a fait mouche dans la presse ce matin, mais visiblement pas assez pour rassurer.
Merci Mélanie pour cette revue de presse. Les matins du samedi continuent et sont un peu bousculés évidemment par cette nouvelle d'hier de la Catalogne et de l'Espagne. Pas d'idée culture tout à l'heure pour laisser place à notre invité. Nous allons parler de l'hôpital et du cerveau avec lui. Du cerveau parce qu'il vient de publier un livre qui s'intitule « Comment lire avec les oreilles et 40 autres histoires sur le cerveau de l'homme ». De l'hôpital parce qu'en début de semaine, la ministre de la Santé a annoncé un certain nombre de mesures en présentant sa loi, son projet de loi de finances de la sécurité sociale et en particulier dans ces mesures, réforme nécessaire des établissements hospitaliers pour qu'ils se modernisent. Notre invité est le neurologue Laurent Cohen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Juste un mot, hein, avec le sourire, parce qu'il faut bien qu'on sourie de temps en temps quand même dans ce monde de brutes. Un mot avec le sourire repris de votre ouvrage. ouvrage sur la prise de décision des Catalans et des Espagnols. Vous avez un chapitre dans votre livre qui s'intitule « La mémoire du futur » et vous montrez que pour prendre une décision, notre cerveau se projette dans l'avenir et échafaude nécessairement des scénarios futurs. Donc c'est la façon dont nous imaginons l'avenir qui guide nos choix présents. Alors comme en plus nous avons tendance, dites-vous, à être plutôt optimistes, là on peut se dire que dans le cas de la Catalogne, Rajoy et Puigdemont n'ont sûrement pas envisagé le même avenir pour prendre
leur
décision.
Oui, effectivement. La première chose, c'est d'avoir une imagination qui vous permet de vous transporter, de voyager dans le futur. D'ailleurs, des patients qui n'arrivent pas à se déplacer dans le futur n'arrivent pas à prendre leurs décisions pour cette raison. Et puis, il faut aussi donner un poids, évaluer chacune des imaginations qu'on a du futur. Qu'est-ce qui serait plus agréable ? Prendre en compte l'effort qu'il faudrait pour y arriver et puis, en fonction de tout ça, eh bien, se mettre en route et puis faire quelque chose.
Puis là, on a vu qu'ils avaient hésité. Hein, la décision était longue à prendre. Manifestement, l'avenir n'était pas si rose que cela pour prendre la décision rapidement. Votre livre « Comment lire avec les oreilles » Laurent Cohen est un livre sur comment notre cerveau prend des décisions précisément, mais aussi comment il perçoit des couleurs, pourquoi certains sont meilleurs en maths que d'autres, pourquoi on fait quelque chose plutôt que rien, comment fonctionne notre mémoire, est-ce qu'il faut faire confiance à nos yeux plutôt qu'à nos oreilles, mais aussi des thématiques qui sont des thématiques de questions d'actualité assez brûlantes, j'ai envie de dire. Apprendre à lire. Vous avez un chapitre intitulé « Apprendre à lire », c'est le B.A.B.A. On voit de plus en plus, et notamment avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, l'importance des neurosciences dans l'apprentissage de la lecture et du calcul. Et vous n'êtes pas absent de ces résultats et de ces découvertes majeures, Laurent Cohen.
Oui, alors, effectivement, quand on entend le ministre dire qu'il faut que les sciences du cerveau et les sciences de l'apprentissage joue un rôle dans l'éducation, on peut être que content. Alors ensuite, il faut voir ce que ça va donner, s'il va y avoir des moyens et de bonnes décisions qui vont suivre, ça c'est autre chose. Mais le fait d'avoir une approche scientifique, expérimentale, etc. de l'éducation, ça ne la déshumanise pas et on essaye de la rendre plus efficace.
Ça fait peur à certains, vous dites ça ne la déshumanise pas. De fait, c'est notre cerveau humain dont il est question. Malgré tout, certains parents notamment, certains professeurs sont un peu rétifs à cette question d'introduire des neurosciences dans l'apprentissage de la lecture notamment.
Oui, alors j'ai l'impression que c'est un petit peu une peur qui c'est le mot peut-être des neurosciences, c'est-à-dire qu'en réalité, si vous regardez dans les neurosciences, ce qui peut... c'est toutes les sciences du cerveau et du comportement, etc., eh bien, on n'a pas besoin de regarder dans le cerveau, de soulever le capot, de voir des images du cerveau, etc., pour savoir qu'une méthode d'apprentissage de la lecture est meilleure qu'une autre. Il suffit de regarder quelques bonnes études qui comparent simplement l'efficacité d'une méthode comme la méthode globale ONI et la méthode syllabique pour voir que la méthode syllabique marche mieux. Alors ensuite, si on fait des neurosciences un peu plus sophistiquées, on va soulever le capot, regarder ce qui se passe dans le cerveau, essayer de comprendre pourquoi l'une marche mieux que l'autre. Mais la plupart des décisions, disons, pédagogiques ne demandent pas qu'on ait une vue très détaillée du fonctionnement du cerveau, mais qu'on ait au moins observé comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau apprend.
Est-ce que votre discipline, là où les neurosciences, Laurent Cohen, sont aussi bousculées, puisque tout est bousculé ce matin, on va continuer, bousculées par les nouvelles technologies, et là c'est un sujet qui va nécessairement nous emmener sur le terrain de l'hôpital. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui très différemment qu'il y a quelques années ?
Alors, s'il s'agit de mon travail, c'est un travail, ou je dis le mien, mais enfin des gens qui travaillent, qui font le même genre de travail que moi, c'est évidemment très différent de ce que c'était il y a quelques années. Le travail scientifique a énormément changé. La disponibilité instantanée de la totalité de la littérature scientifique, des résultats scientifiques d'un coup de clic, c'est différent que d'aller passer des journées dans une bibliothèque avec une photocopieuse qui marche pas.
Ça, c'est sûr que
c'est quelque chose comme ça. Mais c'était comme ça. C'était vraiment comme ça. Et puis, quand il s'agit plus spécifiquement du cerveau, quand j'ai commencé à travailler sur ce genre de sujet, la principale source de données sur des questions comme à quoi sert telle ou telle région du cerveau, quelle est la machinerie qu'on met en route quand on lit un mot, quand on fait un calcul mental, etc., c'était l'étude de patients souffrant de lésions cérébrales. Vous avez un accident vasculaire ou quelque chose qui endommage une petite partie de votre cerveau. Eh bien, il y a certains processus cognitifs, certains processus intellectuels très précis qui cessent de fonctionner. Étudier ces petites pannes est extrêmement instructif. Il n'y avait que ça. Et depuis, il y a eu des changements majeurs. Il y a eu l'apparition de l'imagerie fonctionnelle cérébrale qui a totalement révolutionné cette approche, sans, à mon avis, retirer l'intérêt du tout de l'étude des patients. Mais enfin, ça l'a fait passer un petit peu dans les choses démodées.
Aujourd'hui, on n'a qu'un mot à la bouche un peu partout, Laurent Cohen, c'est le mot d'intelligence artificielle. Ils sont deux d'ailleurs. Intelligence artificielle, quel impact peut avoir ces découvertes en intelligence artificielle sur vos neurosciences? Est-ce que vous travaillez avec des chercheurs en intelligence artificielle?
Moi non. Non, pas du tout. Et c'est intéressant, j'étais à une conférence l'autre jour d'un éminent chercheur qui travaille sur les réseaux cérébraux. Comment les différentes parties du cerveau collaborent entre elles? Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau. Chaque partie du cerveau est spécialisée, mais elles travaillent toutes plus ou moins ensemble. Et quelqu'un a posé la question de savoir si l'étude de ces nouveaux cerveaux, de ces cerveaux artificiels, pas des cerveaux des mouches, des souris ou des hommes, mais des cerveaux d'une certaine manière, entre guillemets, que sont les ordinateurs qui gagnent les parties de Go, etc. Est-ce que l'étude de ces cerveaux nouveaux pouvait apporter quelque chose à la compréhension du fonctionnement mental humain? Il m'a dit non. Alors, c'est son avis. Il m'a dit non parce que les cerveaux artificiels, d'abord, sont très loin de faire le même genre de choses que nous, et n'obéissent pas du tout aux mêmes contraintes naturelles. C'est-à-dire qu'un cerveau obéit aux contraintes de la nature. Il a un volume limité, eh bien, son câblage obéit à certaines règles, etc. Donc, je dirais que l'intelligence artificielle, comme outil de travail pour explorer des quantités énormes de données scientifiques, certainement. Certainement. C'est certainement un outil de travail qui permet de manœuvrer de façon beaucoup moins artisanale, potentiellement, des grandes quantités de données scientifiques. Ça, c'est sûr. Maintenant, sur la compréhension elle-même de l'esprit humain, je ne sais pas.
Vous demandez dans votre livre, Laurent Cohen, par exemple, si nous devenons idiots, si nous perdons la mémoire. Qu'est-ce que vous répondez?
Oh là là, ça dépend qui. Non,
mais à cause des nouvelles technologies, hein, bien
non,
sûr.
C'est toujours une question qui se pose. Moi, j'ai tendance à être assez optimiste, peut-être un peu béat, je dois dire, sur cette question de savoir, oh là là, les tablettes, Internet, etc. Est-ce que c'est en train de nous rendre idiots? Moi, je suis assez optimiste. Je vois les choses avec un peu de recul. Je me dis, on a dit les mêmes choses quand l'imprimerie a été inventée. C'est-à-dire que quand l'imprimerie a été inventée, il y a des gens qui ont dit, oh là là, c'est une catastrophe. On sera plus obligé d'apprendre par cœur les écritures saintes, etc. Bon, c'est une manière d'externaliser sa mémoire. On a une prothèse, un livre ou Internet, ça donne des prothèses extérieures de mémoire. Ça, c'est donc très bien, parfait. On peut utiliser sa cervelle pour faire autre chose. Maintenant, on mélange ça un petit peu avec d'autres questions du genre, oh là là, mes enfants passent leur journée sur leur téléphone. Alors là, effectivement, ça soulève d'autres questions, qui est que quand on passe 6 heures par jour à faire un jeu vidéo, le jeu vidéo en lui-même ne fait pas de mal, il fait peut-être même du bien, mais vous allez passer 6 heures sans aller vous balader, sans faire de sport, sans apprendre vos leçons, sans faire d'autres choses qui manquent.
Mais enfin, on s'adapte.
Oui, moi je suis assez confiant sur les capacités d'adaptation.
Laurent Cohen, est-ce que vous êtes aussi confiant sur les capacités d'adaptation de l'établissement hospitalier? Vous êtes vous-même professeur dans un hôpital, la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mardi dernier a débuté à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale porté par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ce projet porte des jalons importants pour rénover un système qui, au dire de nombreux professionnels, est essoufflé. Et précisément parmi les mesures proposées, figure tout un tas de propositions qui concernent l'hôpital et qui concernent l'adaptation, la nécessaire adaptation, la nécessaire modernisation de l'hôpital. Est-ce que l'hôpital est malade ou est-ce qu'il est en bonne santé?
Je crois qu'en France, on a la chance quand même d'avoir un système qui est très généreux, dans le sens qu'il essaye réellement de soigner bien, de la même manière aussi bien tout le monde. Il essaye dans la mesure du possible, ce qui n'est pas le cas partout. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est extrêmement cher. Et que on peut pas reprocher au ministre de vouloir faire des économies parce que c'est des économies avec notre argent, donc des économies de notre argent. Donc le fait de rationaliser les choses, d'avoir des soins qui soient bons mais qui soient moins coûteux, tout ça, ça va. Personne peut dire le contraire. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que la manière dont ça doit se faire, en ce sens-là, je suis assez content que le ministre soit un médecin, c'est que on a parfois des sentiments désagréables quand on est médecin et qu'on a affaire directement avec des membres de l'administration qui, eux, ont une logique purement comptable. Et on a l'impression que, mais voilà, nous, on est les médecins, c'est nous qui savons... comment il faut faire avec les patients. Vous nous obligez à fermer des lits, vous nous obligez à faire ceci, cela, vous n'y connaissez rien. Et inversement, je pense que de manière tout aussi légitime, les administratifs doivent se dire, bon, ben, ces médecins, ils ne se rendent pas compte de la réalité, ils ne se rendent pas compte que la bourse n'est pas complètement pleine. Donc, je crois que réussir à gérer cette espèce d'interaction entre les contraintes médicales et les soins aux patients et les contraintes administratives, ça, c'est quelque chose qui est financière, c'est quelque chose qui est un exercice délicat. Mais ça a changé, là aussi, je joue au vieil imbécile, mais quand moi j'étais interne dans les hôpitaux, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. Il y a un patient qui était hospitalisé, on pouvait le garder hospitalisé s'il était d'accord, si ça lui allait aussi longtemps qu'on voulait. Il y avait de la place, il y avait un très grand nombre de lits. Maintenant, c'est totalement différent.
Oui, puis la ministre va aller encore plus loin, puisqu'elle veut que 7 patients sur 10 soient en ambulatoire, c'est-à-dire quand on entre le matin pour se faire opérer, on sort le soir.
Oui, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que si ça peut se faire dans de bonnes conditions médicales, sans que, évidemment, les patients soient mis à la porte ridiculement trop tôt, ça va de soi. Mais sinon, ni les médecins, ni les patients, surtout, ne souhaitent d'habitude rester à l'hôpital. Il y a pas mal d'autres formules. Dans un certain nombre de cas, il y a des patients qui peuvent aller à l'hôtel, revenir le lendemain. Enfin,
combien avez-vous de lits, Laurent Cohen, dans l'unité de neuropsychiatrie comportementale de la Pitié?
Alors, l'unité de neuropsychiatrie comportementale, l'UNPC de la Pitié, qui d'ailleurs est un enjeu. Alors, est-ce que ça vaut la peine financièrement de la perpétuer ou pas, voilà.
C'est une question que vous posez ou c'est une question qui se pose?
C'est une question qui se pose. Eh bien, il y a 6 lits. Voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est des patients 6 lits, donc toutes les semaines, il y a 6 patients différents qui sont hospitalisés là. Et ça fait du travail pour une équipe spécialisée.
Laurent Cohen, on parle beaucoup, malgré tout, de burn-out, de pression, de souffrance à l'hôpital. Vous qui y œuvrez quotidiennement, est-ce que c'est ce que vous voyez, ce que vous constatez? Alors, je suppose que dans les services, ça n'est pas la même chose, hein, selon qu'on passe ici ou là des urgences à la chirurgie.
Je pense que c'est très variable et que moi, je suis particulièrement privilégié. Hein. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui est un grand hôpital, qui est en moyenne pas mal doté. Et à titre personnel, moi-même, j'ai, comme je fais pas mal de choses différentes, j'ai pas une trop lourde charge clinique. Mais je sais évidemment que dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de cliniques, dans beaucoup d'endroits, et puis dans le secteur privé aussi, il y a pas mal de situation dans laquelle le personnel médical, paramédical, etc. et naturellement, indirectement, les patients travaillent dans des conditions très difficiles.
Avec des patients qui n'ont rien à y faire, ça c'est ce que dit beaucoup la ministre en particulier, si vous confirmez ça.
Oui, non, ça je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je pense que les patients ils suivent les filières qu'on leur propose et que effectivement, il faut imaginer qu'il faut optimiser ces filières, que ça coûte moins cher, que sans sacrifier, ça c'est notre... sans sacrifier la qualité des soins. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction à résoudre, il y a des compromis à faire, je suppose. Mais chacun tire dans sa direction.
Pour l'instant, la ministre voit la question comme une question plus d'organisation que de moyens. Elle dit vouloir lutter contre les opérations inutiles.
Bah ça, personne ne peut dire
contre
le contraire.
Contre les actes réalisés deux fois, sur le fait qu'on fasse un examen en ville et qu'on le refasse à l'hôpital.
Absolument, qui pourrait dire le contraire?
Ça paraît du bon sens,
ça
veut dire que beaucoup d'actes sont réalisés deux fois et qu'il y a beaucoup d'opérations inutiles, Laurent Cohen?
Non, alors ça, j'en sais rien. Je n'ai aucune idée des statistiques des choses inutiles. Ce qui est vrai, c'est que ce que je vois, moi, c'est à l'occasion des examens faits plusieurs fois. Effectivement, parce qu'il a été demandé une fois par un médecin, puis il dit, bon, bah, on va le refaire. On va voir. Voilà, dans mon expérience, là encore, mais qui est limitée, c'est pas un problème énorme. Mais c'est une expérience limitée, et puis c'est comme le livre d'Air France, quoi. Une somme de petites économies, ça fait des grosses économies.
Il y a une autre question qui touche à l'organisation, c'est la question de la tarification à l'acte. Alors, ça avait fait beaucoup de remous, beaucoup de bruit au début, il y a maintenant 13 ans, je crois, hein, que c'était en 2004, et puis tout d'un coup, plus rien. Et pourtant, on dit que ça conduit à multiplier justement des interventions inutiles. Est-ce que vous avez vu un changement dans la structure, dans la façon de travailler de vos collègues à l'hôpital? Est-ce que vraiment les choses ont considérablement changé depuis qu'a été mis en place cette tarification à l'acte?
Oui, ça a changé. C'est ce que je vous disais sur le fait que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de contrainte. L'hôpital s'en fichait d'une certaine manière de savoir ce qui se passait à l'intérieur, combien de patients étaient hospitalisés, pour combien de temps, etc. Ensuite, c'est devenu, d'une certaine manière, l'outil de mesure. Un hôpital reçoit de l'argent en proportion de ce qu'il fait.
De sa performance.
Et donc, ça, bon, d'une part, ça pousse dans un bon sens à l'activité, mais ça a également des effets pervers bizarres, où on vous incite à faire beaucoup de choses, mais en même temps, on ne veut pas que vous en fassiez trop.
Bizarre ce que vous dites, de dire ça pousse à l'activité, parce qu'à l'hôpital, on n'aurait pas envie de dire que ça pousse à l'activité. Finalement, quand on vient à l'hôpital, c'est qu'on est malade.
Absolument.
Donc on n'a pas spécialement envie de rendre les gens malades.
Oui, mais il faut que tout ça soit fait de façon...
D'agir. C'est ce qui pousse certains à dire que l'hôpital est en train ou est déjà devenu une entreprise et que ce n'est pas sa fonction. Vous en dites quoi, vous, Laurent Cohen ?
Maintenant, je crois que c'est les deux contraintes auxquelles on a à faire face, c'est-à-dire que c'est tout à fait vrai que, et ça c'est la seule chose que les médecins ont à l'esprit, c'est d'une certaine manière le point de vue qu'ils doivent représenter, c'est que les gens soient bien soignés, sans sacrifier la qualité des soins. Et puis de l'autre côté, il y a la réalité qui est que il faut faire des économies, donc il faut supprimer ce qui est trop cher, supprimer ce qui n'est pas indispensable et rationaliser les filières de soins.
Mais si ça revenait à vous de le faire, si vous aviez les cartes dans les mains, vous conserveriez l'hôpital tel qu'il est ou vous chercheriez à le transformer ?
Alors c'est un travail qui est certainement extrêmement difficile. J'admire l'ambition de ceux qui s'y attaquent. Moi, à vrai dire...
C'est pour ça que vous ne faites pas ça.
Exactement. Exactement. Si je savais ce qu'il faut faire, je le dirais, mais honnêtement, je ne sais pas. Et je me suis souvent un peu laissé... Je suis resté à l'écart de ce genre de décision.
Et Martin Hirsch, sur France Inter, la semaine dernière, ou même c'était cette semaine, je crois, disait que l'hôpital connaît aujourd'hui une mue douloureuse, que les techniques changent, les rapports aux patients changent, les modes de travail changent. Mue et douloureuse ?
Là encore, je pense que ça dépend pas mal des endroits. En ce qui me concerne, l'endroit où je travaille, c'est pas si douloureux.
Et c'est pas si en mutation.
C'est pas si douloureux. parce qu'on a la chance d'avoir un plateau technique de bonne qualité, d'avoir des collaborateurs nombreux qui peuvent donner des avis sur les cas difficiles. Donc, on ne travaille pas dans de mauvaises conditions.
Donc, vous allez bien.
Moi, ça va
pas mal. Votre service va bien,
mais
vous allez bien.
Mais je suis parfaitement conscient du fait que c'est pas la.
Qu'autour de vous, c'est pas aussi
Absolument.
Bien. Une dernière question. On en parlait avant le journal, Laurent Cohen, et c'était la une du journal Le Monde hier, puisque c'est aussi quelque chose qu'a soulevé Martin Hirsch, et que c'est une question dont on parle beaucoup en ce moment. Le harcèlement est un problème à l'hôpital. Martin Hirsch, le président de la PHP, bien sûr, disait que c'est un milieu particulièrement vulnérable. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous assistez? Que vous regardez.
Alors là encore, je vais vous donner l'impression que je vis sur la Lune, mais moi j'ai aucun...
Rien du tout.
Attendez, je dis moi. Il se trouve que je n'ai jamais été témoin de problèmes de ce genre-là, mais les relations entre, par exemple, entre les hommes et les femmes, c'est parfois... Le problème général, c'est que c'est les abus de pouvoir, et on retrouve les mêmes choses dès que quelqu'un a du pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est très facile d'en abuser. Des grandes personnes qui abusent, qui font du mal aux enfants, des femmes qui font du mal à d'autres femmes qui sont d'une situation d'infériorité, des hommes qui font du mal à des femmes. Je trouve ça toujours répugnant. Le fait que dans le milieu médical, il y ait certaines situations traditionnellement où les hommes se retrouvent en situation de supériorité, puisque traditionnellement, il y avait par exemple beaucoup d'infirmières et beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières femmes et beaucoup de médecins hommes, on peut imaginer que dans ces circonstances où beaucoup de jeunes étudiantes médecins et beaucoup de vieux patrons hommes, on peut imaginer que simplement du fait qu'on se retrouve à une situation de pouvoir et la nature humaine qui n'est pas toujours extraordinaire, ça suffit à provoquer des choses comme le harcèlement sexuel, par exemple, ou d'autres abus de pouvoir.